Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, COP24, c'est déjà trop tard. Ceux qui n'y sont pas feront partie des sceptiques, ceux qui y sont seront les plus convaincus de son utilité. Emmanuel Macron va mettre en place demain un haut conseil pour le climat. Composé d'une douzaine d'experts, il aura pour mission de conseiller le gouvernement en matière de transition écologique et de l'alerter si les politiques menées l'éloignent des objectifs de l'accord de Paris. Or, cette annonce intervient à un moment clé, à la fois en plein conflit des Gilets jaunes, conflit qui pose la question de l'acceptabilité sociale de la fiscalité écologique, et à quelques jours de la COP24 qui doit se tenir à Katowice en Pologne. Une conférence pour consolider l'accord obtenu lors de la COP21, lequel en a bien besoin. L'Organisation météorologique mondiale vient de faire le constat que les gaz à effet de serre avaient franchi un nouveau pic de concentration dans l'atmosphère en 2017. Une fois de plus, il y a donc urgence à agir, mais il est encore temps. C'est en tout cas le message qui est formulé à chacun de ces grands rendez-vous. Mais est-il vraiment pertinent? Les actions à mettre en œuvre ne devraient-elles pas plutôt partir du constat que les objectifs de limitation du réchauffement ne seront pas atteints et qu'il convient donc de prendre des mesures pour amortir la catastrophe plutôt que pour l'empêcher? Alors COP24, c'est déjà trop tard. C'est la question que nous posons ce soir et ce dans le cadre de l'opération spéciale sur Radio France. Plusieurs journées consacrées à ces questions environnementales. Et nous allons le faire ce soir en compagnie de deux invités. Bettina Laville, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et présidente du comité 21, comité qui accompagne les décideurs sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'ONU en 2015. Vous accompagnez-vous les décideurs français. Vous avez été la conseillère pour les questions d'environnement, notamment de François Mitterrand, mais aussi de Lionel Jospin quand il était Premier ministre. Vous êtes la directrice de rédaction de la revue Vraiment Durable et l'an dernier, sous votre co-direction, a été publié L'adaptation au changement climatique, une question de société, ouvrage publié aux éditions du CNRS. Pour discuter avec vous, Philippe Biwix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur, spécialiste des questions énergétiques, membre du conseil d'administration de l'Institut Momentum, et qui se pose cette question. Je trouve que c'est une question qui résume assez bien les travaux que vous y faites. Comment organiser la transition vers un monde post-croissant, post-fossile et modifié par le climat? Voilà, donc ça fait beaucoup de questions. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion de répondre à certaines d'entre elles ce soir. Et vous avez publié, c'était au Seuil en 2014, dans la collection Anthropocène, l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable. Alors avec vous deux, je voudrais qu'on commence par la perspective de ce rendez-vous de la semaine prochaine en Pologne, la COP24. Bettina Laville, on a, si ce n'est pas vu passer la 22 et la 23, mais en tout cas on ne peut pas dire qu'elles aient été énormément médiatisées. Est-ce que cette COP24 a une importance particulière ?
Alors, même non médiatisées ou moins médiatisées, les COP sont toujours très utiles. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faudrait les supprimer ou les espacer, parce que elles sont chaque année l'occasion d'une mobilisation non seulement des politiques, mais des scientifiques, des décideurs et des citoyens. Et la preuve d'ailleurs, Radio France organise toute une semaine qui va forcément faire monter la connaissance des problèmes climatiques parmi les auditeurs. Alors, en quoi c'est une COP importante? Alors, vous savez, en matière environnementale ou en matière climatique, on a comme ça de grandes échéances. Alors, après la COP21, dont on s'est beaucoup félicité, il y a eu une espèce de retombée. La COP22, c'était juste la ratification, finalement. Elle a été assez rapide. La COP23 à Bonn, c'était effectivement vraiment une COP technique. Et puis là, on se dit qu'il y a un rendez-vous qui est 2020. Et donc, c'est dans 2 ans. Et qu'en 2020, il faudra appliquer l'accord de Paris. Parce que pour l'instant, il faut bien voir que l'accord n'est pas appliqué. On est en train de discuter des règles. Et d'ailleurs, c'est une des critiques qu'on a fait à l'accord de Paris. C'est qu'il n'avait rien prévu alors que les scientifiques considéraient que la période était absolument cruciale et le rapport du GIEC de 1,5 degré qui vient de paraître le redit. Et l'accord de Paris n'avait rien prévu de 2015 à 2020. Donc, 2020, il nous faut des règles, il nous faut des règles de transparence.
Et ces règles-là, donc, elles doivent être décidées.
Un rehaussement de l'ambition, voilà.
Avant de donner la parole à Philippe Biwix, juste un mot, Bettina Laville. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fera que cette COP sera un succès et qu'est-ce qui fera que cette COP sera un échec?
Alors, d'abord, c'est pas tout noir et blanc, je veux dire. Il y a des COP qui n'ont pas été des succès diplomatiques extraordinaires, mais qui ont posé les ferments de la réussite de la suivante. Il y a trois conditions, à mon avis, quand même, importantes. C'est que il y a un très gros document sur les règles de transparence, autrement dit, les règles, quoi, tout simplement. Donc là, il faut vraiment avancer et il faut avoir un document qui fasse à peu près l'unanimité des pays sur la manière dont on s'échange, en fait, les mesures des contributions de chaque pays. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, je crois que c'est vraiment capital, c'est qu'on va tester la volonté des pays de rehausser l'ambition. On sait tous que les contributions qui ont été données en 2015 sont extraordinairement insuffisantes. D'ailleurs, l'accord de Paris dit lui-même, si j'additionne les contributions, j'arrive à 3 degrés.
Donc il faut essayer de faire mieux que
voilà.
Paris.
Hein. Et la troisième chose importante, c'est le GIEC vient de publier donc son rapport 1,5. Quelle est la réaction des pays à ce rapport?
Alors, on a une idée des enjeux de cette COP24. Vous nous disiez, Bettina Laville, au début de votre intervention, je ne fais pas partie des gens qui considèrent que les COP ne sont pas utiles et qu'il faut les supprimer. Je ne sais pas si vous souhaitez, vous, les supprimer, Philippe Biwix, mais si j'ai bien compris, vous ne faites pas partie, en tout cas, de ceux qui sont les plus convaincus de l'utilité de ces grands rendez-vous internationaux.
Non, je veux pas les supprimer non plus. Je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement, sans être un expert de géopolitique ou de diplomatie, il faut que ce multilatéralisme fonctionne, que c'est effectivement une chambre d'écho, c'est une manière de dialoguer, etc. La question, c'est plutôt de se dire effectivement, qu'est-ce qu'on en attend quand on revient à la maison une fois qu'on reprend l'avion à la fin des quelques jours à chacune des COP. Qu'est-ce qu'on attend effectivement les parties prenantes, que ça soit des diplomates, des ONG, des citoyens, des entreprises, que sais-je. Et là, effectivement, il me semble qu'on a tendance à, même quand on est de très bonne foi et qu'on veut améliorer les choses d'un point de vue climatique et réduire au maximum effectivement l'impact possible demain, même si on sait que déjà la machine est lancée, hein, elle ne sera pas arrêtée. On a cette question de dire, bah oui, il faut que ça soit forcément au niveau mondial, il faut qu'il y ait un prix mondial du carbone, par exemple, une taxe carbone mondiale, il faut que on agisse avec peut-être demain, je sais pas, des accords bien plus contraignants et qui sait, peut-être une organisation mondiale de l'environnement, Jacques Chirac, par exemple, qui avait bien identifié que la maison brûlait grâce à une plume brillante, parlait de monter une organisation mondiale de l'environnement. Et malheureusement, je pense qu'effectivement, Le concept même de l'exercice avec des pays qui ont des agendas un peu différents, il faut le reconnaître, et rend les choses très difficiles, très douloureuses et probablement très lentes.
Est-ce que c'est la méthode qui vous rend le plus sceptique, Philippe Biwix, ou est-ce que c'est l'approche de ces COP qui pose problème? Pour préparer l'émission, vous nous avez dit que rien ne sortira des COP car on continue de vouloir conjuguer écologie avec emploi et croissance. Là, on va être au cœur du débat.
Avec croissance, parce qu'avec emploi, je pense qu'on peut le faire. Mais alors, effectivement, le problème numéro un, c'est qu'on n'a pas le bon logiciel et que, enfin, c'est même qu'on n'a pas le bon câblage. C'est-à-dire que on estime qu'on va pouvoir faire de la croissance verte, c'est-à-dire une croissance qui sera décarbonée. Il y a plusieurs outils pour ça. On peut parler des énergies renouvelables, on peut parler du numérique, hein, la transition numérique qui permet de gagner en efficacité, les smart cities demain, les smart buildings, les voitures autonomes qui permettront de covoiturer, un peu ce monde à Jérémy Rifkin, hein, pour la troisième révolution industrielle. Et puis aussi des nouveaux modèles économiques, hein, de type économie circulaire, économie de la fonctionnalité, qui permettrait aussi de réduire un petit peu le gâchis, la consommation. Et donc on se dit qu'on va pouvoir faire un découplage entre une croissance du PIB d'un côté et les émissions de CO2 de l'autre. Malheureusement, il faudrait faire un découplage absolu, c'est-à-dire une courbe de croissance qui monte pendant que la courbe des émissions descend. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ça. On arrive à faire un découplage relatif, c'est-à-dire qu'il y a une courbe qui monte un petit peu plus vite que l'autre, hein, c'est-à-dire les émissions de CO2 ont grimpé à peu près de 1% ces dernières années, alors que le PIB lui grimpait plutôt de 2, quelque chose pour cent, 2,8 je crois. Mais malheureusement, ça continue à grimper. Et donc ce pari, parce que ça n'est aujourd'hui qu'un pari, malheureusement qu'un pari à la fois technologique et un pari économique, dire qu'on va y arriver, il n'est absolument démontré nulle part et à aucune échelle.
Ce pari-là, vous y croyez, vous, Bettina Laville ?
Je ne suis pas d'un optimisme extraordinaire. Je trouve que votre émission s'appelle « Est-ce trop tard ?» Ça commence à être vraiment tard. Finalement, il y a 25 ans qu'on sait que les problèmes climatiques sont totalement influencés par la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Ça a été extrêmement difficile de faire entendre ça aux politiques de tout pays. Je crois que nous sommes aujourd'hui vraiment dans le vif du sujet et que nous abordons la malheureuse période où la transition va s'exprimer par des tensions extrêmement fortes, tant à l'intérieur des pays, on le voit dans le nôtre par exemple, hein, que dans l'ensemble des pays. Alors, mais je pense pas que ça soit la faute entre guillemets, ou en tout cas que ça soit relié aux COP, parce que l'avantage des COP, c'est la confrontation de tous les membres de l'ONU, c'est-à-dire des gens qui ont des degrés de développement extraordinairement différents et qui, même à l'intérieur des groupes où ils œuvrent pour le climat dans l'ONU, ont des comportements extraordinairement différents. Pensez que la Chine et le Bénin font partie du même groupe de l'ONU. Bon, et évidemment, la Chine a beaucoup intérêt à rester dans ce groupe, alors qu'elle est évidemment même plus un pays émergent, hein, elle est la deuxième puissance mondiale, et que, d'autre part, les pays dits encore très pauvres, se sentent un peu chapeautés par de grandes puissances comme ça. Et il faut absolument garder cet espace de confrontation. Même si c'est des confrontations dures, on l'a bien vu à la fin de l'accord de Paris, etc.
Ça d'accord, Bettina Laville, ça c'est pour l'espace de confrontation. Alors bon, il faut du multilatéralisme, finalement c'est aussi ce que dit Philippe Biwix, tout en étant un peu moins convaincu que vous peut-être de l'utilité de ces grands rendez-vous, mais sur le modèle derrière qui est promu, cette idée que déjà qu'il n'est pas trop tard, et qu'ensuite il y a, notamment avec la croissance verte, avec le développement durable. Le développement durable, c'est un sujet évidemment que vous connaissez bien. On peut quand même essayer de limiter justement le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez, vous, que ce modèle-là du développement durable, dont on entend parler quand même depuis déjà de longues années, il est toujours pertinent par rapport à l'urgence actuelle?
Moi, j'ai beaucoup défendu le développement durable il y a 20 ans parce que il a fondé quelque chose de très important. C'est une culture commune de tous les pays qui n'existait pas. Aujourd'hui, je pense qu'on peut toujours l'appeler développement durable, mais là où je suis tout à fait d'accord avec Philippe, c'est que la croissance verte, ça ne suffit pas et que le découplage dont il parle doit être beaucoup plus radical. Alors ça me paraît absolument évident. Et pour ça, si vous voulez, je pense qu'il y a deux manières de faire. La première manière de faire, c'est que aujourd'hui, nos dirigeants, même lorsqu'ils sont animés des meilleures intentions, et même lorsqu'ils ont compris le sujet climatique, considèrent que c'est un gros sujet parmi d'autres sujets. Mais c'est plus du tout la vérité. C'est le sujet qui doit totalement impacter tous les autres. C'est vrai que nous sommes dans un monde, vous le dites souvent Philippe, dont les ressources sont finies. Et ça change complètement le modèle économique. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose qui me paraît, moi, extrêmement importante, c'est que à partir de cette nouvelle vision de l'économie, on doit avoir des indicateurs de richesse, de prospérité, qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui, qui sont vraiment, ils existent, mais malheureusement, ils restent dans les universités ou dans les travaux statistiques. Et ça doit être des indicateurs de bien-être liés à la santé, liés en particulier à la viabilité de notre biosphère et de notre écosystème. Et ça n'existe pas encore parce que on mesure notre richesse par rapport, comme dit quelqu'un, au vieux monde.
Philippe Biwix.
Oui, je crois qu'on on a un des problèmes à se recaler sur la réalité des choses, sur la réalité bien matérielle. Parce qu'effectivement, on a plutôt tendance à se dire qu'on vit, en tout cas dans les pays développés, dans des économies post-industrielles, quelque part presque dématérialisées. Non, l'économie n'a jamais été aussi matérielle. On vit dans une société hyper-industrielle. Simplement, les effets des normes environnementales et sociales fait que beaucoup de choses se sont déplacées ailleurs que dans nos pays. Mais je crois que c'est le CGDD qui le dit très bien, que
le CGDD,
le commissaire général au développement durable, qui fait des très belles études statistiques, des monographies, a montré que l'empreinte carbone du français moyen avait augmenté quand on reprend en compte l'effet des exports-imports. Donc on a l'impression quelque part de continuer à faire une petite croissance du PIB en France ou en Europe et puis d'avoir des émissions de CO2 qui stagnent ou qui baissent légèrement. Mais non, c'est juste parce qu'on importe plus de choses qui ont été fabriquées ailleurs. Et l'usine du monde qu'est la Chine, effectivement, il y a une partie de ces émissions qui devraient être portées chez nous. Donc c'est aussi un enjeu potentiellement diplomatique ou géopolitique. D'ailleurs, comment seraient comptabilisés ces flux de matières et de marchandises.
Mais il y a justement une façon de réduire cette empreinte carbone, c'est par exemple d'essayer de favoriser les énergies renouvelables. Ouais. Ça fait partie pour vous de cette croissance verte à laquelle vous ne croyez pas ?
Alors oui, parce que pour plein de raisons. Alors je vais vous en donner quelques-unes. La première, d'abord, c'est l'effort industriel qui devrait être fait, c'est-à-dire une économie de guerre pour réellement réussir à déployer les énergies renouvelables à la hauteur qui serait nécessaire. Je vous donne juste un chiffre au niveau mondial. Au niveau mondial, l'augmentation de la production électrique au niveau mondial, l'année dernière, entre 2016 et 2017, ça a été à peu près 600 TWh. Alors, en gros, on va dire un peu plus que la production électrique française, pour un ordre de grandeur, hein, au niveau mondial. Et l'augmentation des renouvelables, éoliens, solaires, etc., c'était un peu moins de 300 TWh. C'est-à-dire que on n'arrive pas, malgré toutes les promesses, tous les grands programmes, etc., les annonces, on n'arrive pas à suivre simplement la croissance de la consommation. Et juste dire, allez, chaque kilowattheure que je rajoute, je vais essayer de le rajouter en renouvelable. Je ne parle même pas de remplacer ce qu'il faudrait faire pour diviser par 4 la facture carbone. Donc on est déjà dans un truc qui est déjà compliqué d'un point de vue industriel. La deuxième chose, c'est que il y a un enjeu de ressources. Et les ressources, c'est-à-dire que les énergies renouvelables sont théoriquement inépuisables et disponibles en grande quantité, mais il faut les
Soleil, le vent.
Le soleil, le vent, que sais-je, les marées, les courants, la houle et autres joyeusetés. Mais simplement, il faut des métaux, il faut des matières, il faut des choses qu'on extrait de la croûte terrestre pour les capter, pour les convertir, pour les stocker, pour les utiliser. Et c'est là qu'on se trouve avec un problème un peu systémique. C'est-à-dire que du coup, on a l'impression qu'on va faire des choses plus propres d'un côté, mais ça déporte. Il y a des gens d'ailleurs, comme Guillaume Pitron, par exemple, la guerre des métaux rares, qui montre ça très bien. On a déporté de la pollution et même on déporte de la consommation énergétique, parce que pour produire ces métaux, il faut aussi de l'énergie.
Emmanuel Macron va présenter demain sa programmation pluriannuelle de l'énergie, avec la trajectoire et puis le mix énergétique. Même si on augmente la part des énergies renouvelables, Bettina Laville, on est quand même toujours sur une fausse piste. Ou bien est-ce que vous y croyez un peu plus que Philippe Biwix ?
Je ne sais pas si j'y crois un peu plus ou pareillement. Ce que je crois, c'est que l'effort d'éducation de la population n'a pas été assez fait par le monde politique, si bien que les citoyens, on l'a bien vu ces derniers jours, pour des raisons qui sont tout à fait valables dans leur quotidien, ne sont pas prêts à accepter un changement de modèle dont ils considèrent qu'ils le supportent et qu'ils ne l'ont pas choisi. Voilà. Et qui, additionné à quand même un niveau de vie un peu compliqué depuis la crise de 2008, ça ne passe pas. Donc, je crois que là où je suis tout à fait d'accord avec Philippe, et je disais que Nicolas Hulot l'avait d'ailleurs très bien dit dans son émission jeudi soir, c'est que nous sommes en face d'un enjeu tel que c'est une économie de guerre. Quand Nicolas Hulot dit « on a, au lendemain de la guerre, su reconstruire complètement une économie avec un effort et des crédits absolument énormes », c'était un plan Marshall. Deuxièmement, on a dépensé des millions de milliards de dollars pour surmonter la crise de 2008. Et on n'est pas capable de faire la même chose alors qu'il s'agit de la survie même, non pas de notre planète, mais de notre humanité tout simplement. On est tout à fait d'accord. Donc, on est dans la bonne trajectoire, pardonnez-moi, on est dans les petits pas.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai l'impression que sur cette question du plan Marshall, c'est pas que je veuille à tout prix vous opposer l'un à l'autre, mais Philippe Biwix, j'ai plutôt compris que vous étiez plutôt hostile à l'idée, justement, d'aller vers cette économie de guerre, d'aller vers un plan Marshall, mais qu'il faudrait plutôt quoi? Alors, essayer de réduire au maximum notre consommation énergétique plutôt que d'essayer de faire des efforts pour trouver des énergies qui seraient véritablement meilleures pour la planète?
Oui, c'est ça. Alors, bon, je suis pas hostile par principe aux énergies renouvelables, à toutes les énergies renouvelables. Il y a des énergies renouvelables qui sont plus ou moins impactantes pour l'environnement. Vous savez que des éoliennes, c'est pas forcément parfait. Il peut y avoir des effets comme ça déportés sur différentes choses. Donc, par exemple, je suis plus fan du solaire thermique, par exemple, que du solaire photovoltaïque, en me disant, si je fais d'abord de la production électrique pour ensuite alimenter un chauffe-eau, est-ce que c'est vraiment utile?
Bon, l'hydrogène.
Voilà. Alors, l'hydrogène, c'est un autre problème. C'est qu'on perd énormément à l'aller et au retour, hein, quand on le transforme en hydrogène et puis quand on le réutilise. Et donc, ça demande à démultiplier la quantité d'énergie renouvelable qu'on va installer. Et puis ensuite, il y a d'autres joyeusetés sur les questions du stockage, sur les questions de l'utilisation du platine. Bon, voilà.
Donc, c'est pas que vous êtes contre, mais...
Je suis pas contre, mais disons différentes choses. Mais par contre, ce que je pense, on ne peut faire des renouvelables, on est crédible à faire des renouvelables que si on fait de la sobriété en même temps ou avant, et pas juste si c'est pour accompagner la croissance parce qu'on continue à installer, des data centers vous savez que le numérique aujourd'hui, ça représente à peu près entre 10 et 14%, les chiffres varient un peu de toute la production électrique mondiale, et ça continue à augmenter très très vite, plus vite que l'aérien. Si on n'est pas capable de bloquer un peu ça, de se calmer là-dessus, et ben on pourra installer autant de renouvelables qu'on voudra, et ça sera très compliqué.
Mais est-ce que c'est pas ce qui manque aujourd'hui justement dans le discours, Bettina Laville, c'est-à-dire une promesse qui, alors qu'est celle de l'économie verte, du développement durable, appelons-les comme on veut, de dire finalement, on va aussi, si on y met les moyens, encore faut-il les mettre, mais trouver une façon de maintenir, on va dire, notre confort, qui est le nôtre aujourd'hui, plutôt que d'avoir un discours qui dise, attention, maintenant, on a vécu au-dessus de nos moyens et il va falloir aller vers davantage de sobriété. Et par exemple, peut-être moins chauffer, par exemple, nos appartements, et mettre un pull un petit peu plus chaud quand il fait un petit peu froid.
Je confirme que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher d'isoler un corps que d'isoler un bâtiment.
Bettina Laville.
Mais ça s'appelle l'efficacité énergétique et la sobriété. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais
moi, aussi la décroissance.
Alors là, je suis pas d'accord pour des questions sémantiques. Parce que il faut bien voir que si on prône la décroissance, c'est pas le mot croissance qui me gêne, c'est le mot décroissance. C'est-à-dire que on ne peut absolument pas faire accepter un nouveau modèle qui est quand même en rupture totale avec les 4 siècles derniers. Hein. On ne peut absolument pas faire accepter ça en disant vous aurez moins. Il faut dire vous aurez autre chose. Et vous aurez autre chose au nom de la conservation de la vie. C'est ça qui est vraiment très important. C'est pour ça que moi j'essaye de m'inscrire dans une réflexion philosophique avec cette revue là-dessus, parce que je pense qu'il s'agit véritablement d'une nouvelle philosophie. Mais quand je prône, un plan Marshall, un peu long comme ça, mais vraiment, c'est aussi bien pour compenser un certain nombre de choses, parce que vous n'allez pas faire une transition, y compris sur la sobriété, sans qu'énormément de gens se retrouvent sur le carreau. C'est pas vrai, la transformation des emplois. Ce mythe des emplois verts qui va arriver tout de suite, ce n'est pas vrai. Il va y avoir des dégradations épouvantables de l'emploi, une transformation. Et donc, il faut bien compenser avant que les gens s'inscrivent dans cette nouvelle économie. Et ça, c'est des crédits publics très, très importants.
Mais vous dites, on peut pas dire aux gens, vous aurez moins. Mais est-ce que un discours de vérité, ça ne serait pas de leur dire? Vous aurez moins, Philippe Biwix. Je rappelle que vous faites partie de cet institut au Momentum qui est dirigé par Yves Cochet. Alors, vous n'avez pas forcément tous exactement le même point de vue sur la question, mais il y a notamment cette théorie de l'effondrement qui dit que, en gros, on y est déjà. Et de toute manière, il faut bien renoncer déjà à un certain nombre d'éléments de notre mode de
vie. Mais ça dépend à qui on dit.
Alors, on parlait.
Alors, voilà. Et c'est aussi
on parlait d'économie de guerre tout à l'heure, où il y a eu des l'époque, effectivement, qui ont été rationnés avec des efforts. Je crois que c'est Roosevelt qui demandait aux ménagères américaines d'abord de jardiner, hein, Gardening for Victory, mais aussi de ramener, je sais pas, leurs trucs, leurs élastiques, parce que comme on avait perdu l'insuline, il y avait plus assez de caoutchouc pour fabriquer les pneus des jeeps et des avions. Donc, je pense qu'on est capable, entre guillemets, de faire peut-être certains sacrifices, on pourrait dire, sur l'aspect du confort, sur l'aspect de l'hypermobilité, etc., à condition de donner aussi des perspectives, d'une part, donc je vais y revenir, et à condition d'avoir une certaine équité. C'est-à-dire que si on demande aux gens de se serrer la ceinture, et puis qu'à côté de ça, on a des élites qui continuent à se promener avec des avions privés parce qu'il faut pas qu'ils ratent un rendez-vous, hein, suivez mon regard, avec un Premier ministre qui s'était fait prendre sur ça, me semble-t-il, il y a quelques mois. Alors, on peut justifier, effectivement, que son emploi du temps le réclamait, mais c'est très difficile de réclamer des efforts quand tout
si
le monde
n'y
participe
Valls,
pas.
Je ne sais pas si c'est Emmanuel Valls que vous pensez, mais qui était allé voir un match.
Je crois que c'était Edouard Philippe, en l'occurrence, qui revenait du Japon, de mémoire.
C'est un autre Premier ministre.
Bon, enfin, peu importe, enfin, tout le monde est un peu...
Mais justement, je trouve que voilà, vous mettez l'un et l'autre le doigt sur quelque chose qui me semble assez compliqué. C'est-à-dire que, en gros, on voit bien que le réchauffement climatique, les dérèglements climatiques, ils sont causés par un système qui est le système capitaliste. On peut, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à bas. Certains peuvent considérer qu'il faut en sortir, d'autres qu'il faut le réformer, ou d'autres encore qu'on peut continuer de cette manière. Mais ceux qui profitent le plus de ce système, ce sont justement ceux qui sont dans les classes dirigeantes et qui, par ailleurs, ont les moyens aujourd'hui, même si la catastrophe arrive, de se prémunir des effets de la catastrophe. Donc, comment est-ce qu'on fait?
N'exagérons pas. Hein. Quand il y a le feu en Californie, le feu ne choisit pas les riches ou les pauvres.
Oui,
ça,
mais,
c'est,
vous voyez, oui, mais si on a les moyens, on a toujours les moyens de se reconstruire ailleurs. C'est beaucoup plus facile quand on a quand même
quand on a un capital.
Sauf quand on est mort, bien sûr, Bettina Laville. Mais ce que je veux dire, c'est que les plus durs à convaincre, est-ce que ce sont pas ceux, finalement, qui profitent le plus de ce système qui est à l'origine de ce dérèglement?
Ce sont les deux, parce que vous avez raison en ce sens que les nantis ont un effort absolument énorme à faire pour changer leurs habitudes, mais que vous ne pouvez pas non plus parler, alors aux Togolais ou aux Béninois, de sobriété. Croyez-moi, la sobriété, il sait ce que c'est le Togolais ou le Béninois. Or, il faut bien voir que le système climatique, c'est un système planétaire. Et donc, on ne peut pas avoir, il faut des politiques nationales, en particulier dans tout ce qui est carbone, taxation du carbone, etc. Mais il faut aussi avoir un langage universel. Sans ça, vous aurez tout simplement des guerres. Les guerres du climat, ça existe, elles commencent. Bon. Et donc, c'est ça qu'il faut concilier. Donc, je pense que ce qu'on appelle l'équité, alors on parlait beaucoup depuis 20 ans d'équité intergénérationnelle, parce qu'on se disait que c'est les générations dans 40 ans qui en souffriront, mais pas du tout. Maintenant, c'est les nôtres. Donc, c'est de l'équité tout court. Et le problème d'équité, de justice climatique, etc., il est absolument au cœur du problème. Et finalement, il est, sauf dans le préambule de l'accord de Paris, très très peu présent. On n'a pas des outils là-dessus. Et ça, c'est absolument fondamental.
Philippe Biwix, L'âge des low-tech, qui est le titre de votre livre, donc, qui prône une forme de sobriété technologique, est-ce que c'est un âge qui réforme le système capitaliste ou qui vise à en sortir?
Alors c'est pas un brûlot anticapitaliste parce que sinon j'aurais été classé tout de suite en droit, mais c'est quelque chose qui conclut que le système dans lequel on est aujourd'hui ne fonctionne pas sur le long terme. Je crois que c'est il me semble que d'ailleurs il y a des économistes des années 70 qui étaient un peu plus hétérodoxes qu'aujourd'hui et qui effectivement disaient tout ce qui n'est pas concevable, c'était Schumacher qui disait ça, tout ce qui n'est pas concevable sur le long terme est absurde d'un point de vue économique. Or aujourd'hui on est dans des choses qui ne sont pas concevables sur le long terme. Donc il faut effectivement inventer un autre système économique, organisationnel, culturel, commercial, industriel. Alors appelons-le post-croissance pour pas se faire trop peur, et qui effectivement permettent d'avoir des vies le plus agréables possible, de faire société, c'est-à-dire effectivement d'éviter des effondrements ou des difficultés locales ou régionales ou mondiales. Et moi, je crois que c'est effectivement possible. Alors, c'est très utopique, mais c'est moins utopique que la croissance verte et le fait qu'on puisse, comme ça, faire des pourcents d'augmentation de prélèvements dans la croûte terrestre ad vitam aeternam.
Et c'est un système qui suppose que l'on renonce à quoi, par exemple, concrètement?
Et ben, par exemple, qu'on renonce à la voiture. Alors évidemment, il est inimaginable de renoncer à la voiture demain matin, hein, quand on compte faire des débats en cours, mais on peut amorcer un système, amorcer quelque chose pour effectivement sortir, alors je ne sais pas si c'est à l'échelle d'une, deux, trois décennies, de la voiture et de l'autosolisme.
Est-ce que c'est renoncer à la voiture ou est-ce que c'est renoncer à cette voiture individuelle ?
Oui, mais ça va, enfin pour moi ça va un petit peu avec, parce que j'ai beaucoup de mal à croire qu'on arrivera à faire quelque chose vraiment à base complètement de covoiturage. Et en fait on a un problème dans la
même si c'est du jour de l'annonce de la loi mobilité.
Oui, en fait dans la sobriété et efficacité c'est quelque chose de compliqué, parce qu'en fait c'est un continuum et souvent on confond les deux notions. Alors je vais vous donner un exemple. Dans la voiture on veut faire de l'efficacité. L'efficacité c'est d'avoir des moteurs qui consomment de moins en moins. D'accord. La sobriété c'est d'avoir des voitures qui seraient plus petites, moins lourdes et qui iraient moins vite et où on aurait parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à chaque fois qu'on a un moteur plus efficace, on a des voitures qui s'alourdissent et donc on ne gagne rien en termes de consommation. On gagne éventuellement en confort. Et donc, il faudrait, par exemple, d'un point de vue réglementaire, interdire, alors au 1er janvier, je ne sais pas, 2020, par exemple, pour prendre un exemple concret, des voitures qui font plus de 1 tonne 100. Et puis l'année d'après, peut-être, on fera 1 tonne 50. Et puis l'année d'après, on fera 1 tonne. Et on va aller vers des petites voitures, très petites, des voiturettes, qui dépasseront pas 70 km/h, qui feront peut-être 500 kg et qui poseront très peu. Et puis à un moment, ça rejoindra la foultitude d'innovations qu'on a sur les vélos.
Jusqu'au jour où donc on renoncera définitivement à la voiture, est-ce que c'est une perspective, est-ce que c'est un horizon qui vous paraît enviable, Bettina Laville, pertinent et audible aujourd'hui dans un discours politique? Parce que quand même si évidemment les sociétés civiles s'organisent, les grandes décisions, elles viennent de là, elles viennent du politique.
Moi, ce que je crois de plus terrible, ça serait qu'on nous impose de renoncer à la voiture. C'est-à-dire que si vous voulez...
Bah comment vous voulez faire autrement ?
Au milieu de... Ben, si, justement, faire évoluer les mentalités, faire en sorte que les gens soient de plus... Il y a quand même une garde éclairée, en fait, en ce moment, qui se lève dans tous les pays par rapport à ces problèmes-là. Et donc, si vous voulez, il faudra qu'à un moment donné, qu'on choisisse entre... le système chinois qui, étant donné l'ampleur des dégradations environnementales en Chine, impose, parce que c'est pas une démocratie, impose en punissant les gens qui ne se soumettent pas aux injonctions du gouvernement, impose un nouveau système, ou bien si on arrive par un mouvement citoyen appuyé par les politiques et pas imposé par les politiques. Qu'est-ce que ça veut dire appuyé par les politiques ? Ça veut dire que les citoyens sont assez conscients pour élire des politiques qui sont eux-mêmes assez conscients de ça.
Voilà. Il y a un mouvement citoyen en ce moment, c'est oui, le mouvement des Gilets jaunes, dont la particularité n'est pas d'aller vers un renoncement justement à la voiture.
Il n'y a pas que celui-là. Souvenez-vous, après la démission de Nicolas Hulot, tous les appels qu'il y a eu et les appels citoyens. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu, par exemple, un appel très important d'étudiants qui sont dans les écoles de commerce, qui ont déclaré qu'ils ne voulaient pas rentrer dans des entreprises polluantes et qu'ils voulaient choisir d'autres entreprises. Vous êtes en ce moment dans une extraordinaire contradiction de la société, comme dans tous les grands mouvements de transition. Et on a l'impression que les citoyens qui se lèvent, c'est des citoyens parce qu'ils font beaucoup de bruit, qui finalement seraient anti-écologiques, mais je crois pas. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, il y a un rassemblement de Gilets jaunes qui veut justement réfléchir sur cette transition.
Ouais, ils viennent mettre en place une délégation officielle.
Voilà, exactement.
Et ils créent une assemblée citoyenne pour débattre des thèmes de la transition écologique.
Voilà, c'est ça. Et c'est quand même, je veux dire, mais c'est une évolution extraordinaire. On est véritablement dans un bouillonnement issu de nos contradictions et de nos retards. C'est vrai que moi, je considère que c'est tard, et je connais bien Yves Cochet et son l'Institut Momentum, mais c'est, par exemple, vraiment, moi, je voudrais le saluer ici, parce que un des premiers qui, criant dans le désert, même au milieu de ses amis écologistes, hein, qui le trouvaient parfois trop apocalyptique, bon, eh bien, il a dit ça avant, avant tout le monde. Il a dit véritablement qu'il fallait renoncer à certaines formes de confort qui s'apparentait au gaspillage, et deuxièmement qu'il fallait véritablement fonder un nouveau monde sur la sobriété. Donc ça, je crois qu'il y a une prise de conscience, mais la condition, c'est l'équité. La condition, c'est l'équité, et c'est la redistribution des richesses acceptable par rapport au prélèvement qu'on fait sur la biosphère.
Il y a autre chose, c'est l'aspect de l'emploi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme on nous a martelé la croissance et l'emploi, ben c'est très difficile de sortir de ce monde de la croissance ou d'y renoncer. Parce que tout de suite, on voit le spectre du chômage, etc. Or, en réalité, d'abord, on voit que cette croissance, elle est plus autant créatrice d'emplois qu'elle n'a été. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si je veux faire de la relance keynésienne et puis que je donne de l'argent aux gens, ils vont aller le dépenser dans un Apple Store. Et donc, ça ne crée pas particulièrement de l'emploi en France. Ou alors, je fais des grands travaux, mais à ce moment-là, je tombe sur Notre-Dame-des-Landes, c'est pas facile non plus. Donc aujourd'hui, la croissance et l'emploi, c'est quelque chose qui fonctionne plus tout à fait. Donc cette logique de destruction créatrice, un peu hein, la Schumpeter, avec voilà, il y a des secteurs qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Ça marche plus aussi bien qu'avant. Et moi, je pense que on en fait une confusion énorme, c'est-à-dire qu'on est dans un paradigme du 19e siècle.
C'est un petit peu une forme de destruction créatrice en disant que vélo va finir par remplacer la voiture.
Disons que...
Sauf qu'il y a un obstacle qui me paraît très intéressant, au-delà des questions d'équité, c'est comment... Est-ce qu'on peut envisager de faire, alors dans une échéance assez longue, hein, ça j'ai bien compris, mais faire renoncer à quelque chose qu'on a connu, qui existe déjà? Parce que renoncer à quelque chose qui n'existe pas, je sais pas moi, mettons la machine à voyager dans le temps par exemple, ou le fait d'aller sur Mars, ça je peux y renoncer très facilement, ça ne me manquera pas. Et par contre, quelque chose qui me permet de me déplacer et auquel on substitue quelque chose qui me permettra certes de me déplacer toujours, mais beaucoup moins loin, c'est imaginable de le faire accepter, ça?
Je pense que renoncer à des choses qu'on a connues, ça nous arrive tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais bon, il suffit de dire, je sais pas, le chant des oiseaux, des transports qui sont pas, la jeunesse, oui, des transports qui sont pas saturés, voilà, il y a quand même des choses peut-être sans doute qui s'améliorent, mais il y a aussi quand même pas mal de choses qui se dégradent dans la vie de tous les jours, et voilà, je pense qu'on a renoncé au plein emploi, les années 60, 70, où on quittait son job, et puis on en retrouvait trois autres, il y avait pas de problème. Donc, moi, je pense qu'on peut aller dans les deux sens,
c'est-à-dire. Oui, mais enlever comme une contrainte, quand même, c'est-à-dire, par exemple, la jeunesse, moi, voilà, plus je vieillis et moins je suis jeune, je ne peux pas dire que ça forcément ça m'enchante. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a quand même le
côté contraignant finalement.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait gagner? C'est-à-dire que, alors, on sait d'abord que les besoins sont très variables. Hein. L'être humain, il est d'abord en rivalité mimétique. Hein. Donc, il fantasme sur son voisin. Alors, si son voisin a une grosse voiture et puis fait des week-end spa à Budapest et que sa femme raconte à la mienne qu'elle était aux vacances aux Maldives, j'ai envie de faire la même chose. Ça, c'est l'être humain. Il est comme ça. Donc, effectivement, mettez en couverture de Paris Match des joueurs du PSG avec des toutes petites voitures et les mêmes personnes qui les entourent et ça va devenir hype, hein, y a pas de problème.
Qu'est-ce que j'ai à y gagner, Bettina Laville?
En même temps, vous savez, l'espèce humaine est quand même celle qui a su le mieux s'adapter. C'est pour ça qu'elle, entre guillemets, a dominé les autres espèces. Et moi, je crois en une formidable capacité d'adaptation de l'espèce humaine.
Mais elle va s'adapter à quoi? Elle va s'adapter à la catastrophe qui est déjà là, ou elle va s'adapter pour la prévenir?
Elle est obligée de s'adapter aux nouvelles. Alors, manifestement, depuis 25 ans, elle n'a pas su la prévenir parce qu'il y a eu un déni. Elle a été très aidée dans ce déni par tous les gens extrêmement criminels qui ont nié les faits scientifiques. Aujourd'hui, je pense que les faits, c'est ce que vous appelez réalité, vous avez tout à fait raison, Philippe. Donc, les faits sont là. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. Mais, je veux dire, cette prise de conscience, elle est effectivement un peu lente par rapport à la rapidité et à l'exigence qu'on devrait avoir au vu de la gravité de la situation. Il n'empêche qu'il y a des signes absolument partout, que ce soit... prenez l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez un président qui dit manifestement le réchauffement climatique, c'est pas mon problème, il y en a peut-être un, mais moi je choisis le bonheur des Américains tout de suite.
Voilà, il est en train de le dire en disant regardez, il fait froid aux États-Unis.
Et puis
donc c'est
voilà,
bien la preuve que ça n'existe
ce genre
pas.
De stupidité. Et puis vous avez en même temps. Des industriels, des États, beaucoup d'États américains, des groupements qui font contrepoids. Donc il y a vraiment dans l'homme une possibilité d'adaptation Et je pense que cette possibilité d'adaptation, elle doit être relayée par le politique parce qu'on n'en est plus aux petits gestes et aux petits pas. La situation est trop grave.
Et on verra si ce Haut Conseil pour le climat, par exemple, est un outil qui permet de relier ou pas ces questions. Bettina Laville et Philippe Biwix, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Je renvoie vos ouvrages respectifs. Donc Bettina Laville, l'adaptation au changement climatique, ça a été publié l'an dernier sous votre codirection aux éditions du CNRS, et Philippe Biwix, l'âge des low-tech, c'était en 2014 aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Jordan Fuentes. Dans un instant, vous allez retrouver la dispute avec Arnaud Laporte. Arnaud.
En effet, dans 3 minutes, on parlera beaucoup de théâtre et un peu de Bertolucci quand même. Dans du grain à moudre, demain, la question.
Demain, c'est le vote solennel à l'Assemblée nationale sur la réforme de la justice. La justice peut-elle se passer de juge? Ce sera notre question.
On vous retrouve demain. Merci beaucoup Hervé. Vous écoutez France Culture, il est 19h, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.